Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le cannabis est interdit par les conventions internationales aux côtés des autres drogues que sont l'héroïne et la cocaïne. Le cannabis est donc interdit par la loi en France et dans de nombreux pays, mais depuis quelques années, sous la pression de la consommation qui va en augmentant dans le monde, les législations sur le cannabis évoluent dans certains pays, dans certains États américains et dans une semaine dans tout le Canada, la libéralisation contribue à façonner un marché en forte expansion qui se chiffre en milliards de dollars illégaux, mais aussi légaux, à Wall Street où la cote des entreprises spécialisées est au plus haut. On parle même d'or vert. Le cannabis est-il un business comme les autres? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en discuter, deux invités nous ont rejoints en studio. Ivana Obradovic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Et vous êtes l'auteur d'une note sur la légalisation du cannabis au Canada qui est publiée aujourd'hui. Et Jean-Pierre Coutron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien, porte-parole de la Fédération Addiction, auteur du livre Adolescents et cannabis, que faire? C'est aux éditions Dunod. Or vert, je le disais, ça se traduit en chiffres. Ce sont des entreprises récemment introduites en bourse dont la valeur peut être multipliée par 6 en quelques semaines. C'est un marché mondial estimé à près de 180 milliards de dollars, dont 12 milliards sont actuellement légaux. Mais ça risque de changer avec le Canada, premier pays du G7 à légaliser la production et la distribution de cannabis à la fois médical et récréatif. Et là, on va s'arrêter une première fois. Quelle est la différence entre les deux, à part l'usage, bien sûr? Est-ce qu'il y a une différence de substance, Anna Obradovic, entre le médical et le récréatif?
Alors, il y a effectivement une différence de composition. Il y a une différence de marché aussi, puisque le cannabis légal à usage médical existe dans une trentaine de pays dans le monde et dans la moitié des États américains. Le Canada était le premier pays au monde justement à légaliser le cannabis à usage médical.
En 2001. Alors, est-ce que l'effet du cannabis médical et du cannabis récréatif, qui est beaucoup plus souterrain pour l'instant dans la plupart du monde, est-ce que l'effet est différent en termes de psychotropes et d'addiction, Jean-Pierre Coutron?
On peut prendre l'exemple de l'opium et des traitements de la douleur. C'est-à-dire qu'il y a un point commun, ça vient de la famille des opiacés, et après on se met les agences d'État qui vont déterminer le médicament, se mettre d'accord sur une composition, sur une présentation, sur un mode d'absorption, et du coup on va sélectionner à partir de ça un certain nombre d'effets, voilà, hein. Et à l'inverse, sur le marché parallèle, on va avoir une autre technique de fabrication et avec l'idée de viser d'autres effets. Donc c'est à la fois la même chose et c'est en même temps potentiellement très différent sur le marché, mais aussi sur les modes d'utilisation.
Alors quand on parle de cannabis médical, on parle de quelque chose qui existe depuis le début du 21e siècle, vous le disiez, 2001 au Canada. La France commence à étudier la question, à entrouvrir la porte, c'est dans l'air. Est-ce qu'on est encore sur une niche ou est-ce que les géants de l'industrie pharmaceutique sont déjà positionnés là-dessus, Ivana Obradovic?
En tout cas, c'est au Canada que se trouve la première entreprise du monde, en
termes
d'exportation, en tout cas, voilà, qui est donc le premier pôle exportateur et qui a des perspectives de développement qui s'ouvrent maintenant avec la légalisation de l'usage récréatif, qui sont exponentielles les acteurs économiques ne s'y sont pas trompés, puisqu'il y a des mouvements en cours de concentration avec des fusions-acquisitions dans le secteur du cannabis et un rapprochement aussi, ça c'est nouveau, avec l'industrie de l'alcool.
Oui, on va en parler, effectivement. Les laboratoires pharmaceutiques, Jean-Pierre Coutron, ils suivent cette affaire avec une attention renouvelée.
Au risque de me faire accuser de privilégier l'image sur le raisonnement, c'est une partie de tennis. Il y a d'un côté l'industrie de l'alcool et l'industrie du festif, et de l'autre côté l'industrie du médicament, mais c'est vieux comme la drogue, c'est le pharmacon, c'est pour faire du bien ou pour jouer, voilà, ou pour faire du mal. Donc il y a deux groupes d'intérêts traditionnels qui peuvent se dire, puisque ce produit va évoluer dans la législation, j'ai des parts de marché. Donc il y a l'industrie pharmaceutique bien évidemment qui regarde en disant tiens, je peux avoir, il y a des indications pourquoi pas, et puis il y a les industries du plaisir qui regardent et qui disent tiens, je peux avoir des parts de marché, pourquoi pas pour.
Les défenseurs de la légalisation, c'est un discours qu'on entend souvent, disent que le cannabis récréatif n'est pas plus toxique que l'alcool qui est légal. Est-ce qu'il faut tordre le cou à cette idée? C'est vrai ou c'est pas vrai, Ivana Obradovic, pardon?
Alors, on a toujours tendance à comparer. Il y a des risques qui sont liés au cannabis, en particulier pour les adolescents, qui sont la tranche d'âge qui consomme le plus dans tous les pays, y compris au Canada, puisque les adolescents canadiens sont ceux qui consomment le plus au monde. Donc, effectivement.
Avant même la légalisation, hein, c'est déjà le cas.
Voilà. Avant même, voilà. Bah, c'est vrai que les États qui ont légalisé sont souvent des États où il y a des niveaux de consommation de cannabis qui sont élevés. Donc, dans cette période de la vie qui est un âge de maturation cérébrale, le cerveau n'étant pas terminé, tout produit toxique, que ce soit le cannabis ou l'alcool, peut avoir des effets nocifs.
Mais les effets sont comparables, Jean-Pierre Coutron, ou
Ouais, les effets sont comparables et on peut jouer avec toutes les comparaisons possibles. Par exemple, on sait que l'alcool a un impact au niveau d'une maladie comme le cancer qui est très importante. On en discute beaucoup en ce moment en France et c'est un vrai problème. On sait que l'alcool a un impact sur les actes de violence et sur le passage à l'acte violent qui a été mesuré, documenté et qui pose problème. Donc quand vous faites des débats avec des jeunes dans une école, ils vont dire « Oh, mais il y a moins d'accidents de voiture ». Bien sûr, monsieur, avec le cannabis, il y en a, mais il y en a moins avec l'alcool parce que ça rend moins agressif. Voilà. Puis vous allez avoir une autre personne qui va vous montrer les études sur le risque de la schizophrénie. Nous, on a plutôt envie de dire ce que rappelait Anna Ibradovic, c'est ce sont des substances nocives. Elles ont un certain nombre d'inconvénients. Ce sont des substances qui peuvent être thérapeutiques. Elles ont un certain nombre d'avantages et elles sont plus nocives sur des publics vulnérables, moins nocives sur des publics plus solides. D'où la réflexion qui est menée au Canada. Quel marché, quel système de distribution, quelle organisation de la rencontre on va avoir avec cette substance? On a vu que la prohibition, ça marche pas, puisque même sous prohibition, il y a des niveaux de consommation importants. Comment on peut organiser une rencontre du côté médical et du côté utilisation ludique qui soit mieux régulée?
Ivana Obradovic, au Canada, dans 7 jours, hein, dans une semaine, la vente de cannabis va être organisée exactement comme la vente d'alcool, notamment au Québec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe exactement?
Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il va y avoir une réglementation très différente selon les provinces et aussi entre les villes. C'est-à-dire qu'il y a des communes, par exemple, à Québec. Ça va être autorisé en théorie, mais finalement interdit dans tous les lieux publics et même parfois à domicile, puisque les propriétaires immobiliers ont le droit dans le contrat de bail d'interdire la consommation.
Ça veut dire que la vente va être autorisée, mais l'usage très très encadré, c'est ça que vous êtes en train de dire.
L'usage va être extrêmement encadré, comme il l'est dans tous les États qui ont légalisé, mais un peu plus au Canada, qui avait vraiment une préoccupation de santé publique. En tout cas, les effets de cette réglementation vont être très disparates selon les provinces et les municipalités, donc ça va être particulièrement intéressant à surveiller.
Parce qu'actuellement, Jean-Pierre Coutron, je ne sais pas si vous êtes déjà allé acheter une bouteille de vin à Montréal, si ça vous est déjà arrivé, il s'agit d'entrer dans un magasin, c'est un monopole public en fait, hein. c'est comme ça que ça se passe.
Oui, ils ont un système de vente qui est confié effectivement à un monopole public avec en dessous de tant de degrés d'alcool un accès beaucoup plus libre et puis au-dessus de tel degré d'alcool ou pour un certain nombre de boissons ces magasins spécialisés avec des taxes, hein, il y a une politique des taxes et il y a une politique...
Oui, il y a aussi cet enjeu fiscal.
Bien sûr, il y a une politique des taxes et il y a une politique de l'horaire ou de la disponibilité du produit et ce qui va extrêmement nous intéresser dans le cannabis c'est effectivement comment ils vont réussir à équilibrer. Moi, je suis de ceux qui, en termes de santé, pensent que le cannabis est une marchandise et que c'est normal qu'elle circule comme une marchandise. Ça fera moins de mal que le marché parallèle. Mais ce n'est pas une marchandise tout à fait comme les autres. Donc, il n'est pas scandaleux de vouloir la réguler. Après, quelle sera la capacité des États à le réguler? C'est l'enjeu. Quand vous indiquiez l'excitation financière que l'on voit autour de ça, on peut se demander si on ne va pas faire avec le cannabis les mêmes erreurs que l'on a fait dans certains pays avec l'alcool.
Alors, la légalisation du marché, ce sont certes des petits producteurs qui vont sortir de l'illégalité, hein, dans certains États américains notamment, mais on parle surtout de potentiels géants qu'on dessert partout au Canada. On parlait de Canopy Growth. Ça change quoi, ce changement d'échelle, Ivana Obradovic?
Bah, ça change que le Canada est un peu le premier sur le marché du cannabis légal. Donc, il a une sorte de prime.
De prime à l'entrant.
Voilà, de prime à l'entrant, qui fait que bah, dans tous les États qui vont légaliser à partir de maintenant le cannabis à usage récréatif, et par exemple en Nouvelle-Zélande, il y aura un référendum sur ce point en 2020, il y a d'autres États qui y pensent, ça veut dire que le Canada va être a mis un pied dans la porte et pour l'instant assez peu concurrençable sur ce marché.
Ça c'est pour le côté économique, hein. Est-ce qu'il y a un côté... est-ce que ça change quelque chose du point de vue de la standardisation des produits? Est-ce que ça va permettre d'avoir des produits plus sains que ce qu'on peut acheter à son dealer du coin? J'allais dire ça comme ça, mais c'est presque ça. Hein.
C'est un autre argument qui peut être en faveur d'une politique de régulation. C'est qu'on a une garantie de la part de l'État et de la part de l'entreprise de ce que l'on achète. Et c'est pas quelque chose d'anodin. Dans ce qui peut être vendu en ce moment dans certains quartiers, sur le marché parallèle, on a des produits qui sont de très mauvaise qualité avec des mélanges. Voilà. Donc il y a toujours dans cette histoire de régulation un versant positif et un versant non pas négatif, mais un versant sur lequel on doit s'interroger et tenir la ligne. Mais un des avantages serait effectivement qu'on puisse avoir moins de substances rajoutées, et puis qu'on puisse être plus clair sur le THC. On a beaucoup eu des débats sur le CBD, le THC, les fameuses différentes composantes de ce que c'est que le cannabis.
Comme quand on indique le taux de nicotine sur un paquet de cigarettes, c'est ce que c'est à peu près ça. C'est
voilà, et un peu plus que le taux de nicotine, les autres substances qu'il y a dedans. Et là, en l'occurrence, le THC versus d'autres produits, puisqu'on sait que les effets du cannabis sont variables selon qu'il est plus ou moins dosé en THC, en CBD, ainsi de suite.
Ivana Obradovic, vous voulez réagir là-dessus?
Alors, il faut quand même préciser que le taux de THC, de principe actif du cannabis qui sera vendu, n'est pas plafonné.
Le tétrahydrocannabinol.
Voilà. C'est ça, allez-y. Celui qui est responsable des effets psychoactifs, contrairement au CBD, par exemple. Donc, ce taux-là, il va pas être encadré strictement dans toutes les provinces. Et c'est vrai que ce qu'on a vu aux États-Unis sur le marché privé, c'est une tendance à l'augmentation de cette concentration de cannabis vendu sur le marché légal. Donc voilà, la légalisation ne protège pas forcément de produits de plus en plus concentrés.
Un marché organisé et légal, c'est de la criminalité en moins, c'est moins d'accès à d'autres drogues, parce qu'il y a des problèmes d'accès à des drogues qui sont absolument terribles au Canada notamment et aux États-Unis ces derniers temps, le fentanyl notamment. Est-ce que c'est prouvé justement ça, que si on organise le marché, eh bien il y aura moins d'accès aux autres drogues, Jean-Pierre Coutron?
Alors là, c'est plutôt Ivana Ibradovic qui pourrait vous répondre, parce qu'elle a fait des premières études sur ce qui s'est passé aux États-Unis.
Elle va nous le dire, alors allez-y.
Bah, ce qui est prouvé pour le moment, en tout cas, bon, les études sont pas toujours convergentes, mais il semble que dans les États américains qui ont légalisé le cannabis à usage médical, strictement médical, la crise des opioïdes a été moins violente. Il y a eu moins de décès par overdose. Donc voilà, il y aurait ce lien, et c'est d'ailleurs un des arguments des partisans de la légalisation au Canada, de dire que ça permettra d'éviter ce qui s'est passé aux États-Unis.
La légalisation peut-elle donc aider à protéger les jeunes? Parce que évidemment, quand on parle d'encadrement en Amérique du Nord, on pense immédiatement à l'interdiction de la vente d'alcool aux moins de 21 ans aux États-Unis, qui est largement contourné, hein. On sait que ça c'est assez facile de se procurer de l'alcool quand on a moins de 21 ans aux États-Unis. Est-ce qu'il y a pas un risque de... Comment on peut éviter ce risque de contournement, Ivana?
Alors c'était un des arguments de Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, qui disait on se procure plus facilement un joint aujourd'hui que de l'alcool au Canada. Sauf que le marché du cannabis a été calqué sur celui de l'alcool. C'est à peu près les mêmes règles qui prévalent. Vous le disiez tout à l'heure, dans les boutiques qui vendent de l'alcool, on pourra dans certaines provinces trouver aussi du cannabis. Donc finalement, on n'est toujours pas au clair sur la manière de protéger les jeunes. Et c'est pour ça que l'enjeu de cette réforme, il est important. On verra justement les conséquences sur cette population.
Jean-Pierre Coutron.
Mais ça nous rappelle que la protection ne peut pas passer uniquement par les mesures de prohibition ou par les mesures de distribution. Elle passe aussi par un accompagnement en termes de prévention, de formation, d'accompagnement des familles. Voilà, c'est-à-dire que ces produits, on les achète parce qu'on en attend des effets. Et tous les effets ne sont pas uniquement des effets pharmaco. C'est des effets qui parlent de la relation au plaisir, de l'angoisse. Et là, les pays comme la Hollande, qui sans avoir légalisé, ont développé, ou d'autres pays... Le le Portugal, qui ont développé des alternatives aussi en termes de prévention et d'éducation, ont eu d'excellents résultats. Donc, il ne faut jamais raisonner que du côté pénalisation ou distribution.
Ivana Obradovic.
Ce qui est intéressant justement au Canada, c'est qu'il y a un investissement stratégique de plusieurs centaines de millions d'euros, si on convertit, qui est consenti pour la prévention, l'éducation au risque. Et ça, c'est la première fois qu'un État qui légalise le cannabis accompagne ça de moyens financiers conséquent pour la prévention et la santé publique.
On va voir si ça dure.
Il y a les deux volets, donc, a priori, en ce moment. Vous le disiez, les groupes de boissons et de spiritueux investissent dans les producteurs légaux. Par exemple, il y a un groupe qui produit une célèbre bière mexicaine très appréciée d'un ancien président français qui a pris des parts dans l'un de ses nouveaux acteurs, Canopy Growth, d'ailleurs. Ça veut dire quoi? C'est ce que vous expliquiez, hein. C'est le concours entre la pharmaco, l'industrie pharmaceutique et l'industrie du plaisir. De l'alcool, tout simplement.
Là, en l'occurrence, c'est à l'intérieur de l'industrie du plaisir, le concours entre un produit qui a eu son heure de gloire et peut-être un produit qui va le remplacer. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut surveiller avec beaucoup d'attention. Les personnes qui sont sur ce marché savent qu'elles répondent à un besoin. Ce besoin de se détendre, de lâcher à un certain moment. Elles savent qu'elles ont des produits qui sont présentés là-dessus. L'alcool est beaucoup attaqué en ce moment. Elles voient arriver le marché du cannabis. Ben, vous voyez, à un certain niveau, ça peut paraître cynique, mais si je peux plus faire mon bénéfice avec ça, je le ferai avec ça. L'essentiel, c'est que je fasse mon bénéfice.
Est-ce que il y a un changement de forme à attendre? Parce que, bon, finalement, on se rend compte, et on le sait, de toute façon, que fumer, c'est très mauvais, hein, pour la santé. Est-ce qu'il y a un changement de forme de la consommation du cannabis à attendre? Est-ce qu'on va ingérer le cannabis maintenant, Ivana Obradovic?
Alors oui, justement, le cannabis n'est plus seulement fumé. Au Canada, ce n'est pas encore le cas. Mais en 2019, les produits alimentaires à base de cannabis devraient être autorisés. Pas dans un premier temps, justement, pour ne pas reproduire les effets délétères qu'on a vus au Colorado avec des intoxications d'enfants, d'animaux domestiques aussi au cannabis qui les ont conduits aux urgences. Donc il y a effectivement cette vigilance sur ce point.
Sur ce point, Jean-Pierre Coutron, d'un point de vue
addiction,
ça change des choses?
Alors, le contrôle est moins simple. Si vous avez mangé le gâteau au cannabis, le moment où l'effet peut arriver est moins directement repérable par certains usagers que si vous l'avez fumé. Donc on a vu quelques accidents qui étaient dus à ça. Mais toujours pareil, si on ne veut pas sombrer dans la dramatisation, c'est quand même bien mieux de le vendre de façon légale, sous des formes moins dangereuses à consommer. C'est-à-dire, la combustion étant dangereuse, il y a des réflexions qui sont faites autour du vapotage. Hein. Ce serait bien mieux de pouvoir doser la quantité qu'on a. Et là, encore une fois, la solution ne sera pas uniquement dans la commercialisation, mais dans l'accompagnement. Mais oui, il y a déjà des personnes qui travaillent sur des formes de cannabis qu'on pourrait avoir avec des appareils à vapoter qui permettraient de contourner un certain nombre d'inconvénients en termes de santé et de mieux maîtriser l'effet et la gestion de l'effet. Ce qui est toujours important, quand on prend un produit, il y a aussi ça. Hein. Si vous pouvez doser un peu l'expérience que ça va vous donner, vous vous mettez potentiellement moins en danger.
Est-ce que donc c'est moins dangereux ou est-ce que c'est juste socialement plus acceptable? Est-ce que c'est une question de marketing aussi, tout simplement, Ivana Obradovic?
C'est une question de marketing, même s'il est encore limité à ce stade. Mais comme c'est un marché qui va être porté par des acteurs économiques en partie privés, ça ne sera pas toujours un monopole public. Ça veut dire aussi qu'il y a une tendance à promouvoir ces produits-là, à les rendre plus attractifs, à les diversifier.
Est-ce que le fait que le Canada se lance, ça vous rappelle pas un petit peu ce qui s'est passé? Vous avez employé le mot de prohibition, mais pendant la prohibition, on profite au Canada de la proximité avec les États-Unis où c'était interdit pour lancer une industrie, 6 grammes pour ne pas la nommer, du whisky. C'est ça qui se passe en fait, c'est la même chose?
En tout cas, Justin Trudeau avait deux intérêts à le faire. Un, qui était de redynamiser une campagne électorale qui était un peu en difficulté, donc se poser comme... Et puis un autre, qui était un intérêt économique. Je crois qu'il s'en est jamais caché de dire que le Canada pouvait être un acteur fort de cette économie naissante et qu'il revendiquait ce statut pour son pays.
Merci Jean-Pierre Coutron, merci Ivana Obradovic d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carton à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Hélène Avril. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applis mobiles comme RFI Pure Radio rubrique magazine. Rejoignez le Débat du Jour sur les réseaux sociaux. Bonjour chez vous.